Place Info.
Bonsoir, l'hommage à Jacques Chirac, édition spéciale Les Informés de France Info. Nous allons revenir sur cette journée de deuil national et tenter de comprendre ce que dit cette commémoration de la France d'aujourd'hui avec nos quatre journalistes invités ce soir. Bonsoir à vous, Patrick Poivre d'Arvor.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir, Patrick. Il y aura également avec nous Christine Ockrent qui va nous rejoindre. Elle est encore dans les locaux de nos amis et voisins de palier de France Culture. Elle sera là avec nous, tous deux, je le rappelle, présentateurs vedettes des journaux de 20 heures. Vous avez très bien connu et interviewé Jacques Chirac. Avec nous, Yannick Halimi également. Bonsoir, Yannick.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, qui a consacré 4 voire 5 une à Jacques Chirac. Qui est avec nous? Laurent Guimier. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Vous avez dirigé France Info et Europe 1. Vous êtes le créateur de ces informés, auteur de Jacques Chirac, une vie pour la France, un livre hommage avec plus de 200 photos paru chez Grund. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT.
Les vieilles canailles reconstituées.
Voilà donc ce bourdon, vous l'avez reconnu, de Notre-Dame de Paris qui a retenti ce matin pour la première fois depuis que la cathédrale a été ravagée par l'incendie. Je me tourne vers vous, Patrick Poivre d'Arvor, alors que Christine Ockrent vient de s'installer dans ce studio. Patrick, vous avez assisté à cette cérémonie en l'église Saint-Sulpice pour cet ultime adieu à Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin ?
D'abord des échos de l'extérieur, justement, le bourdon de Notre-Dame, mais aussi les applaudissements de la foule sur le parvis de Saint-Sulpice, alors que évidemment à l'intérieur c'était beaucoup plus calme. Une vraie émotion, bon, naturelle, on enterrait quelqu'un. Et puis évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être journaliste, donc on scrute les regards de tous ces anciens présidents de la République qui se sont haïs, aimés, détestés, succédés. On se dit qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment, etc. Bon, on a regardé tout ça. Poutine, Clinton,
étonnant panel quand même.
Et quand même très beau. Et puis ce moment de grâce, évidemment, grâce à l'impromptu de Schubert, joué par Daniel Barenboim, qui, on le disait en antenne avec Laurent Guimier, était déjà là en 80 pour accueillir François Mitterrand au Panthéon. Voilà. Donc c'était un moment fort. Et puis surtout, Le sentiment que tout ceci terminait une séquence, qui a été une belle séquence, vraiment belle séquence. On peut être fier d'être français pendant ces 4 jours. Puis voilà, on va reparler maintenant de Rouen la vie et de la suite.
Christine Ockrent, ce sont effectivement des pages qui se tournent, comme le dit à l'instant Patrick Poivre d'Arvor.
Sûrement, et je partage tout à fait ce que vient de dire Patrick, parce qu'au fond, on passe beaucoup de temps, et d'abord nous autres journalistes, à insister sur les déchirements français, sur les crises, sur tout ce qui crée, pour reprendre une expression chiracienne, les fractures de la société française. Et là, on a eu quand même le sentiment, pendant ces quelques jours, qu'il y avait cette fierté commune et bien au-delà des souvenirs, avec ce qu'ils ont évidemment d'embelli, parce que chacun s'est souvenu de sa jeunesse. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, et ce sera tout aussi légitime, on insistera bien sûr maintenant de façon plus précise et certainement plus négative sur le vrai bilan de ce qu'a été l'action de l'homme politique.
Il faut une forme de décantation, c'est ça, pour passer au vrai bilan, j'imagine.
Bien sûr, oui. Parce qu'il y a d'abord le temps de l'émotion qui est tout à fait légitime et qui a été très largement partagé.
Monseigneur Aupetit, je vais vous proposer d'écouter ce qu'il a dit ce matin, l'archevêque de Paris, quand il a célébré cette messe.
Il y avait chez notre ancien président, cet homme chaleureux soutenu par son épouse Bernadette, un véritable amour des gens, aussi à l'aise dans les salons de l'Élysée qu'au salon de l'agriculture. Le président Jacques Chirac, sans doute vous en souvient-il, avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. Adieu. Et merci, Monsieur Chirac.
Voilà, je regarde le regard un petit peu ému hein, de Patrick Poivre d'Arvor. Laurent
mais
Guimier.
Vous ne trouvez pas qu'il y avait des accents un peu chiracien?
Mais chiracien, hein, absolument.
On est d'accord.
En fermant les yeux, en fermant les yeux, c'était peut-être même Jacques Chirac qui s'exprimait à travers lui.
Une homélie, c'est un peu étonnant. Mais c'est vrai.
Laurent Guimier, ce que disait à l'instant Christine Ockrent sur, au fond, cet héritage. On évoque, on embellit forcément les choses. C'est une personnalité très attachante qui est partie. Et ensuite, peut-être, viendra le temps d'une autre réflexion.
C'est normal, c'est le temps du deuil, de l'émotion. Et c'est vrai que les temps d'émotion collective dans notre pays, prenons les 25 dernières années, c'est la sueur des sportifs lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et puis, c'est le sang des victimes des attentats. Il n'y a pas beaucoup de moments de communion auxquels nous sommes amenés à partager. Alors, certes, c'est un deuil, c'est la disparition d'un être, mais c'est aussi la façon de se souvenir de pas mal de choses, de réformes. Alors, évidemment, on ne garde que le positif. En tout cas, on ne voit pas que Jacques Chirac a été le plus grand cumulard de l'histoire de la Ve République, qu'il est resté très très longtemps au pouvoir, qu'il a tué tous ses adversaires politiques, qu'il est aujourd'hui le seul président qui est sorti de l'Élysée qui a été condamné après ses voilà, tout ça reviendra. Mais il est normal que pendant 4 jours, on ait pu, là aussi, se dire que finalement, on est tous ensemble des Français, quelles que soient les couleurs, les religions. Et ça, c'est vrai que Chirac incarnait ça.
Jeannick Halimi, vous êtes d'accord avec ce que dit Laurent Guimet. 4-1 du Parisien, consacré évidemment, éminemment à Jacques Chirac, et la parole aux Français à l'intérieur des pages.
Et la parole des Français à l'intérieur des pages, oui, bien sûr, parce que c'est le moment s'y prêtait, parce qu'il y a eu l'hommage hier aux Invalides qui était ouvert au peuple de France, aux Parisiens, aux provinciaux, et bien sûr aux étrangers qui étaient là, parce qu'il avait aussi une aura, une influence et une notoriété, on l'a dit, on l'a répété à l'extérieur de nos frontières. Et puis juste pour s'arrêter sur ce côté populaire, ce que disait le cardinal dans son homélie, voilà quelqu'un
Monseigneur qui... Monseigneur Aupetit, oui.
Voilà, pardonnez-moi, Monseigneur Aupetit, voilà quelqu'un qui savait parler aux Français. On peut pas s'empêcher, avec tout le respect qu'on leur doit, bien sûr, qu'il y avait 3 présidents qui, là, les uns après les autres, avaient traité un Français de « casse-toi, pauvre con », l'autre qui avait traité d'autres Français de « sans dents », et un troisième que je n'oublie pas, et évidemment, au moment où je vous parle, j'oublie, qui avait dit à un jeune homme « t'as qu'à traverser
toujours
la route
pour trouver un... » Toujours en exercice.
Il est toujours en place. Il n'y avait que Valéry Giscard d'Estaing qui, lui, ne s'était pas exprimé ainsi. Mais bon, voilà, c'était un petit clin d'œil de ce moment ô combien solennel.
Et d'ailleurs, Patrick dans ce que vous dites, au fond, on s'aperçoit qu'est-ce qu'on a entendu de la France ces derniers temps. On a entendu essentiellement les ronds-points du samedi, les gilets jaunes.
La violence
des mots et des invectives, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai lu Le Parisien. J'ai écouté hier ce que vous avez fait et que vous avez recueilli auprès des Français. Mais c'était magnifique. Ces paroles étaient d'une très grande qualité.
Justement, on va entendre des paroles de Français. Pardonnez-moi, Christine Ockrent. On va marquer une pause dans les informés. C'est la règle. Hein. Il y a le rappel des titres de l'info. Et surtout avec vous, Armelle Balogog, à 20h11, les derniers développements sur l'affaire de la pollution de Rouen.
Édouard Philippe se fie aux analyses. Les odeurs sont gênantes, mais pas nocives. Déclaration du Premier ministre depuis Rouen. Il s'est rendu sur le site de l'usine Lubrizol, frappée par un incendie jeudi dernier. Depuis, la population s'inquiète. Il faut expliquer les ratés. Il faut rendre des comptes. Déclaration de Christophe Bouillon, le député socialiste de Seine-Maritime, sur France Info. Elle voulait échapper aux violences de son mari. Une femme de 29 ans a sauté du 3e étage d'un immeuble à Nantes. Elle a pris sa fille de 2 ans avec elle. Leur chute a été amortie par des buissons. L'homme, lui, est en garde à vue. Les ultimes adieux à Jacques Chirac, aujourd'hui en l'église Saint-Sulpice à Paris. Hommage aussi en Outre-mer, des rassemblements à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. L'ancien président repose à présent au cimetière du Montparnasse. Et c'est une étape essentielle pour la paix au Soudan. Les mots d'Emmanuel Macron, le président a facilité une rencontre hier entre le premier ministre soudanais et l'un des chefs rebelles, rencontre à Paris.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il y avait donc la foule venue se recueillir dès hier aux Invalides, à la demande de la famille. Il y a eu aussi celles et ceux qui sont rendus à l'Élysée pour signer les registres. Claude Chirac et son épouse, son époux Frédéric Salabarou sont venus même saluer ces Français venus rendre cet ultime hommage.
Pour moi, c'est un peu le président de ma vie, ma jeunesse, de ma vie, disons.
Être français, c'est pleurer quand elle pleure et rire quand elle rit. Et en tant que citoyenne, c'est mon devoir de citoyenne de venir honorer Jacques Chirac.
Merci beaucoup. Merci de venir lui dire au revoir. Merci. C'est vraiment bouleversant.
On s'est dit, on y va. On a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venu dire merci.
Christine O'Crane, qu'est-ce que cela dit de cette France de 2019, venir nuitamment faire la queue et rendre hommage à la mémoire de Jacques Chirac?
Mais ça prouve qu'il y a toutes sortes de gens qui se rendent compte qu'il est important par moment de décrocher des réseaux sociaux. Qu'il est important de décrocher des insultes anonymes qui, hélas, fleurissent, et notamment sur les hommes politiques. La politique est devenue un métier tout à fait impossible. Et imaginons ce qu'eût été la carrière d'un Chirac aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible entre les chaînes d'information continue et les réseaux sociaux. Le ouais. tempérament d'un Chirac, qui n'était pas que douceur et compliment, quelle qu'ait été sa chaleur personnelle, mais c'est impossible. Ouais. Et donc, voilà, on a basculé dans un temps politique et dans des mœurs qui n'ont absolument plus rien à voir.
Patrick Bafflard, vous êtes d'accord?
Vous avez entendu les gens. Au fond, ils ont eu 14 ans de Mitterrand, 12 ans de Chirac. Donc la plupart d'entre eux, ils ont eu 26 ans de ces deux-là. Alors, ils sont plutôt à gauche, plutôt à droite, ça a varié. Au fond, c'était rassurant. Et là, c'est une part de leur vie qui part. Et on voit qu'il y a de la nostalgie, quand même. La nostalgie, c'était mieux avant. En tout cas, c'était moins jetable. Aujourd'hui, les présidents sont jetables.
Ça allait moins vite.
Oui, Laurent Dumier,
Et pour la raison, en grande partie, qu'a décrite Christine O'Crane. C'est-à-dire que la durée de péremption d'une femme ou d'un homme politique se réduit vraiment là aussi, parce qu'on a aujourd'hui des modes de consommation de la politique et de l'information que sont les réseaux sociaux et qui permettent, ou qui malheureusement font en sorte qu'on peut jeter, tuer. Et je suis pas nostalgique. Hein, je pense que les hommes et les femmes politiques doivent s'adapter.
Laurent, c'était mieux avant.
Non, pas du tout. C'est aujourd'hui différent. Une réalité différent. Qui, de fait, je pense, rend totalement impossible une carrière politique de 40 ans. Impossible le fait d'échouer une fois, deux fois l'élection présidentielle et d'être élu la troisième fois. Impossible de créer des grands partis politiques.
C'est terminé.
Autre chose. Et donc, il s'agit pas de faire ce que l'on appelle une uchronie. C'est de se dire qu'est-ce que Jacques Chirac aurait donné à l'heure de Twitter. Mais c'est vrai que sa carrière aurait été semée de beaucoup plus d'embûches, de bad buzz, comme on dit en beau français, et qu'il ne s'en serait pas aussi bien sorti qu'il ne l'est aujourd'hui.
Yannick Halimi, vous évoquiez ce président en exercice tout à l'heure, hein, ce que a rappelé Patrick Boisvert d'Arvor, donc Emmanuel Macron, élu si vite, quand on voit le temps qu'aura mis un Jacques Chirac pour accéder à l'Élysée.
Ah bah écoutez, chacun a sa part de mystère.
Les temps qui changent.
Il y a peut-être, on n'en est pas à faire déjà le bilan d'Emmanuel Macron qui, comme vous dites, est en exercice et qui a opéré de façon très rapide. Ça, pour le moment, je pense, ça fait partie du génie, enfin au sens latin du terme d'Emmanuel Macron. Et le mystère sera éclairci. Peut-être, il y a des raisons rationnelles à la rapidité de la percée d'Emmanuel Macron, qui sont déjà la fragilité. Bien évidemment, des deux grandes forces dont on parlait tout à l'heure, à droite, à gauche, le fait qu'ils avaient, comme vous le disiez, Patrick Poivre, d'avoir à gauche et à droite gouverné sous différentes formes depuis des décennies et qu'il y avait une volonté de changement. Si vous mettez à partir de là les problèmes qu'ont eu François Fillon et la problématique personnelle de François Hollande, on peut expliquer Emmanuel Macron. Enfin, expliquer en partie, parce que encore une fois, ça reste une énigme. Peut-être pas un mystère, mais une énigme. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement, cette cote de popularité est constatable, et puis on peut l'expliquer effectivement pour Jacques Chirac, mais elle est aussi mystérieuse, parce que nous disons tous, nous allons évidemment sortir de la période de deuil qui nous impose une certaine réserve, et que le bilan sera fait dans les jours, les semaines qui viennent. Sauf que le bilan, il a déjà été fait. Les Français, nous ne sommes pas en train d'enterrer, si je puis dire, une personnalité dont le bilan n'a pas été fait, et qui garde une sorte de jeunesse et d'inconnu dans la façon dont il a gouverné et avec les conséquences d'une politique qui ne serait pas déjà actée. Non.
Ce bilan
Jacques
existe
Chirac,
déjà. Il est déjà sur la
Jacques Chirac a arrêté de gouverner il y a 12 ans.
Il y a 4520 jours, j'ai calculé. Donc c'est très très long.
Il y a des livres et des livres, dont le vôtre qui va sortir demain, monsieur Guimier, qui ont été écrits. Et on connaît quand même une partie du bilan avec ses ombres, ses lumières et ses ombres. Et malgré tout, Jacques Chirac garde, semble-t-il, la popularité que l'on constate depuis 4 jours.
Patrick Poivre d'Arvor, puisque le temps a passé, comme le rappelle Jeannick Halimi, avec une comptabilité très précise de la part de Laurent Guimier, décidément, vous auriez été surpris de voir aujourd'hui, dans les travées de Saint-Sulpice, une Marine Le Pen? Est-ce qu'après tout, il n'y a pas une forme d'oubli qui devrait s'opérer?
Bon, là, en l'occurrence, c'est la famille.
C'est la famille qui a décidé, absolument. Mais ça a été largement approuvé sur les radios, sur les télés.
Dans ce qu'on appelle le bilan. Et moi, j'ai tendance à penser qu'hélas, en termes de politique, le bilan ne compte pas beaucoup. On retient 2-3 petites images, 2-3 idées forces, et puis après, on oublie tout. Regardez, Lionel Jospin avait fait un très bon passage à Matignon. Il a été battu lourdement, quand même, alors que tout le monde disait qu'il avait une dream team, etc. Dans ce moment-là, au fond, à part à un moment, en 1983, à Dreux, où il accepte, enfin il laisse en tant que président du RPR, il accepte une alliance avec le Front National, après il est impeccable. La ligne rouge qu'il a décidé de tracer, il s'y tient. Tout le monde ne l'a pas fait, y compris autour de lui, Charles Pasqua qui le poussait beaucoup.
Il aura tenté une médiation.
Bien sûr, y compris jusqu'à aller voir Jean-Marie Le Pen. Ils se détestaient cordialement, ces deux hommes-là. On s'en est rendu compte au moment où, d'ailleurs, Jacques Chirac est mort. Jean-Marie Le Pen a dit, même à un ennemi, on doit le respect.
Même mort.
Il y avait quelque chose de terrible dans ce tweet funèbre. Mais il a, sur ce plan-là, tenu. Moi, je suis pour la conciliation de tout le monde. C'est vrai que ça ne m'aurait pas gêné qu'il y ait Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais en même temps, ça dépend des désirs des uns et des autres.
Allez, on va marquer une pause à 20h20 sur France Info pour le rappel de l'info et la principale information ce soir, la visite d'Edouard Philippe dans la ville de Rouen. Armel Balogov.
L'inquiétude persiste après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. L'association Génération Future dépose plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Plusieurs personnes ont été prises de vomissements après cet incendie, après l'extinction du feu. Ce soir, le Premier ministre veut rassurer. Les odeurs sont très dérangeantes, mais elles ne sont pas nocives. Les mots d'Edouard Philippe sur place. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement formel au SAMU de Mulhouse. La procureure de la ville l'affirme ce soir. Une information judiciaire est ouverte après la mort d'une femme de 60 ans. Elle avait appelé le SAMU pour des douleurs à la poitrine, mais aucun véhicule de secours n'est arrivé. Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse. L'ancien président inhumé dans l'intimité familiale aujourd'hui. Des milliers de personnes se sont massées sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris pour lui rendre un dernier hommage. La FIFA donne raison au FC Nantes. Elle ordonne au club de football de Cardiff de lui payer 6 millions d'euros. C'est une partie du montant du transfert d'Emiliano Sala. Le footballeur nantais n'est jamais arrivé à Cardiff. Son avion s'est crashé dans la Manche en janvier dernier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Merci à vous, Armel Balogog. J'ai avalé votre patronyme tout à l'heure en passant. Alors, on parlait à l'instant du bilan de Jacques Chirac. Écoutez, Jean-Louis Borloo, c'était ce matin sur France Info, l'ancien ministre de la Ville qui s'est fait son avocat en matière de, vous allez l'entendre, de chômage, de rénovation urbaine, de réduction, et oui, de la fracture sociale.
Ce qu'était sa volonté absolue, son dernier quinquennat, c'était réduire la fracture sociale. Voilà. Et il y est en partie parvenu, comme en tous les cas aucun autre chef d'État n'a souhaité le faire. Quand il quitte l'Élysée, le chômage en France est à 7,2, bien mieux que l'Allemagne. Fait mieux que l'Allemagne sur le chômage, mieux que l'Allemagne sur le déficit. Il lance le plus grand chantier civil de notre histoire, qui est le plan de cohésion sociale, la rénovation urbaine. Moi, je veux bien qu'on soit nuancé, mais que d'autres fassent vraiment beaucoup mieux, j'en serais ravi.
Christine Ockrent, il y a eu un Chirac 1 et un Chirac 2. Ce jeune, on va dire, ministre, puis accessoirement premier ministre éphémère et conquérant, patron de ce nouveau RPR qui est perçu comme quelque chose, quelqu'un de très difficile, très dur. Et puis soudain, une sorte de père de la nation qui s'occupe des plus démunis.
Il y a deux étapes dans sa vie. Non, je crois qu'il y a eu un Chirac 1, un Chirac 2, un Chirac 3, un Chirac 4, un Chirac 5.
Tous en même temps.
C'est un personnage d'un romanesque total, qui a commencé plutôt à gauche. Il était partout. Il a été à gauche, il a été à droite, il a été au centre, travailliste, comme on a dit, plutôt à gauche, etc. Et je crois qu'il était extraordinairement français, on l'a beaucoup dit pendant 3-4 jours, parce que il avait le goût du verbe et en plus cette voix. Enfin, il était d'abord très bel homme. Et puis, il avait cette voix, cette très belle voix, avec une chaleur enveloppante. Quand il voulait être charmant, c'était pas toujours le cas, et notamment avec les journalistes, n'est-ce pas, Patrick? Néanmoins, il avait ce talent de dire « on va faire », et puis il ne faisait pas toujours. Et ça, au fond, je crois que ça a parfaitement convenu aux Français. Qui adore penser, n'est-ce pas, que nous sommes tous révolutionnaires et qu'on veut tout changer, mais évidemment, quand on s'y met, ça dérange pas mal de choses. Et donc, je crois que non, Jacques Chirac était profondément, et au sens le plus traditionnel du terme, et c'est une tradition importante dans notre histoire politique, c'était un radical socialiste. Mmh. Et c'était un homme, c'était un réaliste, et qui savait s'adapter à la fois aux rapports de force politique et puis aux circonstances du moment.
Patrick Poivre d'Arvor, pour poursuivre ce que dit Christine Ockrent, est-ce qu'au fond, Jacques Chirac, avant l'heure, n'aura pas incarné ce que ce pays a toujours du mal à imaginer, c'est qu'il puisse être quelque part un peu en même temps de quelque chose?
Évidemment. Christine parle d'or. Ces contradictions, il les a résumées, finalement, dans un personnage qui, alors, était vraiment lui, le Ratzok de la fin. Enfin, Ratzok, le petit Percueil, la Corrèze, tout ceci avait un vrai sens pour lui, avec une vraie tolérance, des fulgurances, des visions, incontestablement. Et au fond, qu'est-ce qui plaît aux Français? Eh ben, c'est que ce gars-là, bah, d'abord, oui, il est beau, il porte bien le costume, ça compte pour les Français, mais aussi, il a des turpitudes, il a des petits trucs borderline, il nous ressemble, en gros, voilà, c'est ce que les gens se disent. Et au fond, ils aiment bien le voir dans le métro, en train de sauter, quand même, c'est pas bien, il est en train de frauder, à ce moment-là, vous vous rendez compte?
Pourquoi vous regardez, Patrick?
Mais parce que j'ai le Parisien, je parle du Parisien.
Ah, bah, pardon, oui, excusez-moi, pardon.
Pour rien, c'était un hommage. Donc, au fond, il y a un peu de ça. Bon, il aimait bien séduire. On peut pas dire qu'en matière de contrat de mariage, il était exemplaire. Ça plaît aux Français. Et en même temps, il avait une femme qui était sa référence.
Oui.
Ouais, je pense qu'ils ont aimé ce côté, voilà, tout et son contraire.
Laurent Guimier, dans ce livre de photos que vous publiez, Jacques Chirac, Une vie pour la France, il y a 1, 2, 3, 10 Chirac?
Oh, une bonne quinzaine, effectivement. C'est vrai que bon, les 50 premières pages sont consacrées au Chirac des années 60-70, qui est très beau. C'est vrai qu'esthétiquement, il a détonné dans cette France post-gaulienne. Mais dans le succès posthume aussi de Jacques Chirac, il y a cette idée qu'il a entretenu jusqu'au bout cette idée que la France avait une voix forte, différente. Discours de Johannesburg, 2002. Et peu importe si derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Chose, mais on se souvient de ces discours et chacun d'entre nous, Français, se disent « Eh bien, à ce moment-là, il y avait un président qui pouvait élever la voix. » Il y a aussi ce nom de 2003. Mais
qui faisait autorité.
Qui faisait autorité. Ouais. D'ailleurs, Chirac lui-même, après le sommet de Johannesburg, l'a dit. Il a dit « Il n'y a pas grand-chose dans les résolutions de Johannesburg. » Mais, pour la première fois, on a pu poser quelque chose. Et c'est vrai que 15 ans plus tard, on s'en souvient. Et ça, c'est aussi pour ça que Chirac reste aujourd'hui. C'est qu'il a réussi à entretenir, je ne dis pas cette fiction, mais cette idée que la France est un pays à part entre les États-Unis et feu le bloc soviétique. Et c'est sans doute peut-être le dernier président qui a pu l'incarner aussi facilement.
Allez, nous restons sur cet hommage à Jacques Chirac, évidemment, dans la deuxième partie des Informés de France Info. Je vous consulterai aussi, vous quatre, les quatre journalistes ici présents, sur la situation, vous savez, notre maison qui brûle à Rouen. Savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette communication gouvernementale, ce sera dans la deuxième partie, dans quelques minutes, après le rappel de la météo et de l'info. À tout de suite.
Et si vous restiez toujours connecté à votre business avec Orange?
Moi, chez Orange, avec l'offre Connect Pro Fibre, je travaille plus vite.
Et moi, je fais des vidéoconférences avec mon équipe.
Et moi, j'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro.
Alors là, je reste sans voix.
Chez Orange, avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Bon, demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi?
J'ai oublié le code Wi-Fi, une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
On en parle.
Investir en toute confiance, c'est possible. On en parle avec le président de Domitis Invest, le numéro 1 de l'investissement en résidence senior.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, le rappel des prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps agité demain, les pluies arrivées par le nord-ouest vont progresser vers le sud et vers l'est. Demain matin, de Poitou-Charentes et du centre vers la région parisienne, le nord de la Seine, des pluies orageuses circuleront. Elles gagneront les Pyrénées, le massif central et le nord-est l'après-midi en effaçant les éclaircies du matin. Sur le nord-ouest, les nuages garderont l'avantage, avec eux quelques averses dès le matin. Ce temps glissera ensuite vers le nord de l'Aquitaine, le centre, Champagne-Ardenne. C'est au nord de la Seine que les averses seront les plus fréquentes, parfois accompagnées d'un orage. Entre le Languedoc-Roussillon et le nord de Rhône-Alpes, ça deviendra instable l'après-midi avec parfois une averse orageuse. Ça se gâtera davantage en soirée avec de bonnes pluies. Et puis sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ce sera plus calme avec du soleil, quelques grisailles tenaces tout de même sur les côtes. Il fera 9 à 13 degrés à l'est le matin, 13 à 19 ailleurs. Et puis l'après-midi, 17 à 23 degrés au nord et 21 à 27 au sud.
Il est 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. 4 jours après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen et alors que la population reste très inquiète, le Premier ministre s'est rendu ce soir sur le site. Édouard Philippe promet une transparence absolue dans ce dossier et il assure que l'odeur est gênante mais pas nocive. Selon lui, les policiers de Rouen n'ont pas la même perception. Certains sont aujourd'hui en arrêt maladie. Laurent Dugast les représente au sein du syndicat Alternatif Police CFDT.
Plusieurs collègues ont fait des malaises, hein, des nausées, se sentaient pas bien par rapport à ça, donc ils ont des soins, des bilans sans dire à contrôler. Les collègues ont respiré, se sont trouvés sous les panaches de fumée toxique. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont pu respirer, donc on veut que toute la lumière soit faite. À l'avenir, on voudrait aussi que ce scénario ne se reproduise plus, donc que des masques, des protections soient mises à disposition des collègues primo-intervenants.
Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l'Agriculture a promis que les agriculteurs affectés par la pluie de suie qui s'est abattue sur leurs champs seraient totalement indemnisés. Les avances seront d'ailleurs versées rapidement, selon le ministre. Les productions de légumes, d'œufs, de miel et de lait ont été gelées sur ordre du préfet. Quant à la direction de l'usine Lubrizol, elle a porté plainte aujourd'hui pour destruction involontaire de biens. L'origine de l'incendie reste indéterminée pour l'instant. Une fuite de gaz dans le quartier Trévise à Paris. En ce moment, plusieurs rues sont bouclées, les habitants ont été évacués. Une trentaine de pompiers sont sur place dans le 9e arrondissement. Certains l'avaient côtoyé alors qu'il était au pouvoir, comme l'Espagnol José Luis Zapatero ou le Sénégalais Abdou Diouf. D'autres étaient encore proches de lui, comme Vladimir Poutine ou Saad Hariri. Au total, près de 80 dirigeants étrangers, en fonction ou non, sont venus rendre un dernier hommage aujourd'hui à Jacques Chirac, le président français décédé jeudi dernier à l'âge de 86 ans. La cérémonie s'est déroulée en l'église Saint-Sulpice à Paris et le bourdon de Notre-Dame a retenti pour la première fois depuis l'incendie de la cathédrale mi-avril. Ce soir, l'ancien président français repose au cimetière du Montparnasse. Plusieurs centaines de personnes lui ont également rendu hommage en fin de journée à Tulle, en Corrèze. L'économie, les 4 Airbus de la compagnie XL Airways ne décollent plus. Ce soir, les vols sont suspendus depuis 15 heures cet après-midi. Plus de 100 000 billets d'avion ne vaudraient donc plus rien. Le tribunal de commerce de Bobigny se prononcera après-demain, mercredi, sur une éventuelle reprise de la compagnie aérienne qui emploie près de 600 personnes. La première audience aujourd'hui du très long procès contre Volkswagen. 450 000 clients rassemblés derrière la bannière d'une association de consommateurs consommateurs traînent aujourd'hui le géant allemand de l'automobile en justice, 4 ans après le Dieselgate. Le tribunal de Brunswick, près d'Hanovre, devra déterminer si oui ou non le constructeur a délibérément induit les clients en erreur avec le logiciel qui truquait les tests anti-pollution. Le procès va durer plusieurs années jusqu'en 2023. Le sport et Biarritz candidate pour organiser les épreuves de surf des JO de 2024 en France. La décision sur la ville choisie sera connue en mai prochain. 20h33, la suite des informés. C'est tout de suite avec Jean-François Killy.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Killy.
Avec nos invités pour évoquer l'hommage à Jacques Chirac, avec Christine Ockrent, avec Patrick Poivre d'Arvor, avec Yannick Halimi du Parisien et avec Laurent Guimier qui publie Jacques Chirac, une vie pour la France, livre hommage paru chez Grunt. Alors nous évoquions Jacques Chirac, ce président aimé des Français. Emmanuel Macron a remercié les dirigeants étrangers présents à cet hommage aujourd'hui en les invitant à déjeuner à l'Élysée. Et parmi les 69 convives à table, figurait eh bien, l'ancien président américain Bill Clinton.
Quel bon représentant de la France il faisait. Il était toujours très optimiste, toujours positif, si français. Il défendait toujours l'intérêt de la France, sans déchirer les gens, mais en rassemblant. Regardez la foule qui est venue pour lui.
Christine Ockrent, vous vous rappelez Chirac, l'Américain, au fond, il a démarré un petit peu comme ça, et il a ensuite heurté les États-Unis avec l'épisode dont on a tant reparlé et reparlé, celui
oui,
de 2003.
Ce qu'on a, ce qu'on néglige de dire, c'est qu'il a rejoint la coalition pour faire la guerre en Afghanistan. Et ce qu'on oublie de dire aussi, Chirac n'était pas du tout un pacifiste. Il a refusé la coalition anglo-américaine contre Saddam Hussein, avec lequel il avait d'ailleurs, et depuis longtemps, des rapports assez étroits. Mais il a aussi, et fort heureusement, déclenché l'intervention dans l'ex-Yougoslavie. Encore une fois, c'était un homme qui savait décider, dans un sens ou dans un autre. Mais le fait que Bill Clinton soit là, avec lequel, je crois, il avait toujours des relations chaleureuses, prouve à quel point cette Amérique-là s'est éclipsée, maintenant qu'elle porte un autre masque, dirons-nous.
Patrick Poivre d'Arvor, à l'international, Chirac était éminemment un Européen, presque faisant des choix contre une certaine partie de cette droite censée le soutenir, quand même.
Européen, j'irai pas jusque-là, non. Je pense que
c'était plus mitigé.
Sa conversion à l'Europe est venue fort tard. Je me souviens avoir animé une émission peu de temps avant le référendum sur l'Europe, où il était face à des jeunes, on avait fait, et il leur disait toutes les 3 secondes, je ne vous comprends pas. Et parce qu'ils ne comprenaient pas. Ouais. Et à vrai dire, il était toujours assez mal à l'aise. Et même une fois, j'ai le souvenir d'une interview, il était à son premier ministre, où je l'interrogeais pour savoir s'il allait dire oui ou non, et il me dit non. Et après, il se reprend, il dit oui. Donc, ça veut dire quelque chose, quand même. Non, je pense que
allô,
sur
docteur
l'Europe,
Freud.
Je pense qu'il était profondément gaulliste. C'est-à-dire que, bon, la logique de l'affrontement des deux blocs. Mais un gaullisme matiné de radical socialiste. Donc, il fallait qu'il y ait quand même un petit peu pour l'un, un petit peu pour l'autre. Regardez la présence de Poutine, ça dit des choses quand même. Poutine, il est aux affaires actuellement. Clinton, oui. Il est à la retraite. Il vient... Parce que, d'abord, c'est vrai que Jacques Chirac avait une relation spéciale avec lui, il parlait russe, il lui racontait, il nous racontait, était-ce bien vrai qu'il avait traduit tout Pouchkine, qu'il était capable de déclamer des poèmes en russe. Mais il y avait quand même ce désir des... Voilà, nous existons, nous sommes des petits... Voilà, c'est une petite France, nous sommes 60, 66 millions, mais nous existons face aux deux grands blocs. Et c'est vrai que sa voix a porté, alors là on l'a vu ce matin en Afrique, beaucoup, a porté en Asie un peu moins, mais a porté dans le monde arabe énormément. Bon, il n'y avait pas que la relation spéciale à Saad Hariri et à Rafik le père, il y avait aussi tout ce qu'il essayait de faire pour le Liban et même pour Israël.
Mais vous diriez, Yannick Halimi, qu'il y avait une certaine image de la France à travers l'incarnation de Jacques Chirac aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, oui, ah bah oui, même s'il n'est qu'un ancien président et maintenant décédé, oui, c'est une certaine image, une image de la France, absolument. Mais enfin, les étrangers se font plutôt, sont peut-être autorisés à faire des bilans d'ores et déjà plus contrastés que nous, les Français et la presse française. Donc, je m'éterniserai pas là-dessus. En revanche, sur le Jacques Chirac européen, il a quand même été ministre à l'agriculture et il a beaucoup combattu justement pour mettre en place la PAC et des politiques intégrées européennes. De ce point de vue-là, il était européen. Ensuite, il y a eu l'appel de Cochin, on le sait, donc où là, ça a été plus qu'eurocratique. Critique, ça a été anti-européen. Après, je ne sais pas ce que pensait au plus profond de lui-même Jacques Chirac. Je vois seulement la parole qu'il a tenue, les discours et les politiques qu'il a menées. Et à partir d'une certaine époque, il est franchement devenu pro-européen.
Alors,
il a défendu jusqu'à la Constitution et après le référendum négatif, il a continué après à défendre l'idée d'Europe. Je terminerai juste sur son dernier acte politique qui pour moi sont justement ses obsèques et notamment l'hommage populaire hier rendu aux Invalides où il y avait qui entourait son cercueil, le drapeau français bien évidemment et le drapeau européen, et je pense que là c'est le dernier signal, voire le dernier cri d'alarme qu'il lance aujourd'hui à une France, à une Europe dont on sait qu'elles sont sinon déchirées, en tout cas extrêmement partagées, et de ce point de vue là pour moi Jacques Chirac a été et restera un homme d'État et un président pro-européen.
Pro-européen. Écoutez ce qu'en a dit Pierre Moscovici, ancien ministre des Affaires européennes, sous la cohabitation Jospin avec Jacques Chirac président.
Et une chose qui, je crois, marque le passage, la conversion à l'Europe, c'est le traité de Maastricht. En 1992, vous vous souvenez qu'il y a eu un référendum qui s'était mené à 51-49. Et c'était pas facile pour lui, il a choisi le oui. Et je pense que ça a été tout à fait décisif. Si Jacques Chirac, à l'époque président du RPR, avait dit « je vote non à Maastricht », il est probable que nous n'aurions pas aujourd'hui l'Union Européenne comme nous la connaissons, nous n'aurions pas l'euro comme nous le connaissons. Et à partir de ce moment-là, sans être un eurolâtre, sans être un fédéraliste, il a été un Européen très résolu. Et je ne l'ai jamais pris en défaut d'Europe, même si son Europe était tout de même une Europe qui reposait beaucoup sur l'identité nationale et qui était très française.
Laurent Guimier, il est très enthousiaste, hein, Pierre Moscovici, sur la question. Hein.
Oui, je suis pas un fin connaisseur de cette question, mais autant je pense qu'il a entretenu cette idée qu'il y avait une France et une Europe entre les deux blocs, mais je pense que pour lui, dans le tréfonds de sa pensée et de ce qu'il, la façon qu'il avait de ressentir le monde, c'est que l'Europe c'était petit et que ses tropismes à lui, c'était plus la grande Chine, l'Inde, les civilisations du monde et toutes les cultures, et que au fond, cette question du destin d'une Europe technocratique qui certes avait amené la PAC, n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus important pour l'avenir de l'humanité.
Christian Ockrent, rapidement, vous validez ce qui a été dit ? C'est une bonne approche ?
Sûrement, je crois qu'il s'est résigné en quelque sorte à l'Europe, qu'il a ensuite servi avec énergie et son intérêt pour l'agriculture, c'est tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs en relatif contradiction avec le cri de Johannesburg, parce que c'est l'agriculture intensive, etc. Mais oui, je crois que ce symbole, j'ai été frappée comme vous, l'étendard européen et l'étendard français en parallèle aux Invalides, c'était un signal fort et voulu, bien évidemment, par Claude Chirac, dont il faut saluer non seulement l'extraordinaire dévouement tout au long de la vie de son père, mais la maestria avec laquelle ces derniers jours et ces obsèques ont été organisés.
20h41 sur France Info. Allez, rappel de l'info avec vous, Armelle Balogog.
Édouard Philippe promet toute la transparence après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le Premier ministre est sur place et il se fie aux analyses sur la qualité de l'air. Les odeurs sont très dérangeantes, mais elles ne sont pas nocives, selon lui. Plusieurs personnes ont été prises de vomissements depuis l'extinction des feux. Le procès du Mediator sera-t-il suspendu pendant une semaine? Les laboratoires Servier le demandent. Leurs avocats veulent ouvrir des scellés fermés. Une procureure dénonce une stratégie. Le tribunal de Le tribunal correctionnel de Paris doit trancher demain. Des centaines de Corréziens rassemblés pour une messe à Tulle. Ils rendent hommage à Jacques Chirac, leur meilleur représentant. L'ancien président repose au cimetière du Montparnasse, inhumé dans l'intimité familiale. Les tribunes des mondiaux d'athlétisme à Doha sont vides ou presque. C'est un fiasco, déplore Jean Galfione sur France Info, le champion olympique de saut à la perche de 96. Des mondiaux difficiles pour les Français. Pascal Martineau-Lagarde, Dimitri Bascou et Willem Belossian ne sont pas rassurants, mais quand même qualifiés pour les demi-finales du 110 mètres haies.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je voudrais rebondir sur ce que vient d'annoncer Armel Balogog, la situation actuellement à Rouen et l'inquiétude des populations, des agriculteurs. Souvenez-vous, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cet extrait qu'on a vu et revu depuis jeudi de ce discours de Johannesburg de Jacques Chirac, qui avait introduit d'ailleurs le principe de précaution dans la Constitution française. Allez, exemple, cas d'école. On va écouter ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre Édouard Philippe quand il est arrivé à Rouen.
Nous avons mis en ligne et communiqué toutes les informations qui étaient en notre connaissance. Je peux parfaitement comprendre ces inquiétudes, mais je veux dire que nous voulons faire sur cet événement, sur ses causes et sur ses conséquences, l'absolue transparence.
Je me tourne vers les deux présentateurs des vedettes, des journaux de 20h, ne souriez pas. Je commence par qui ? Allez, avec vous Patrick Poivre-d'Arvor, qu'est-ce que vous dites de cette communication aujourd'hui du Premier ministre et, j'essaie de vous rassurer, bonnes gens.
Alors, vous faites sans doute allusion au fait qu'au moment de Tchernobyl, nous avions des autorités qui étaient venues doctement à la télévision, je me souviens très bien, interviewées dans notre journal, pour nous dire que, par chance, le nuage de Tchernobyl avait respecté la frontière, donc s'était arrêté. Voilà. Évidemment, depuis, tout le monde se méfie, tout le temps.
Ouais.
Je suis pas un spécialiste, je n'ai pas été sur place, je n'ai pas le résultat des analyses dont parle.
Oui, voilà. Oui.
C'est-à-dire que je pense que s'ils veulent réussir complètement leur opération de transparence, il faut qu'ils multiplient les analyses. Ça ne reste pas uniquement dans des boîtes publiques ou, disons, peu ou prou contrôlées par le gouvernement, sinon les gens ne croiront pas. Et même s'il y a des contre-analyses, des contre-expertises, les gens ne croiront pas parce que le complotisme, évidemment, fait son lit dans les fameux réseaux sociaux dont parlait Christine. Donc, c'est pas facile pour un gouvernement. Bon, c'est pas très facile non plus pour un Premier ministre de dire oui, ça sent mauvais, mais c'est pas dangereux. Bon, bah, je sais pas. Moi, je serais Rouennais. J'aurais surtout envie de dire ça sent mauvais, mais c'est dramatique. On est obligé de se balader avec des masques. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup pour aider à la transparence.
Alors, Christine Ockrent, je cite le Premier ministre Édouard Philippe qui a dit « Je sais que nous vivons à une époque où la parole publique est souvent mise en cause ou décrédibilisée, mais nous allons faire la transparence totale de l'ensemble des données et des analyses qui sont à notre disposition, etc. etc. » Vous évoquez effectivement tout à l'heure, et Patrick le rappelait, les réseaux sociaux et cette accélération à l'infini des choses. Est-ce qu'aujourd'hui la parole publique est décrédibilisée systématiquement ?
Mais c'est bien parce que Édouard Philippe admet qu'elle est décrédibilisée, que tous ses efforts sont faits pour cette transparence, cette fameuse transparence. Et je n'imagine pas une seconde que le gouvernement, j'entendais aussi sur France Info tout à l'heure le ministre de l'Agriculture, je n'imagine pas une seconde que le gouvernement court le moindre risque faisant assaut de promesses, de dire on va mettre tout en ligne, on va tout expliquer, tous les rapports, etc. Je n'imagine pas une seconde qu'il court le moindre risque du moindre défaut de transparence, parce que l'époque l'exige, et l'inquiétude des gens, et surtout, comme on le sait, c'est cet affreux cancer du complotisme qui fait que, bien évidemment, des gens doivent se ruer sur les réseaux sociaux pour entretenir, précisément à des fins diverses et variées, mais toujours négatives, l'angoisse des gens. Donc, je crois que oui, ces promesses de transparence vont être tenues, ne serait-ce que parce que, encore une fois, le risque est immense de les enfreindre.
Laurent Guimier, je me tourne vers le journaliste normand que vous êtes. Le principe de précaution, Jacques Chirac, ça démarre avec avec une crise, la canicule, sous le quinquennat. Hein.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué l'implantation de ce principe de précaution, provoquant beaucoup d'immobilisme. Il faut faire attention à relier des sujets. Là, je pense qu'on est d'abord dans un télescopage terrible de deux informations majeures qui ont eu quand même des conséquences en termes de communication et de gestion de la crise rouennaise. Le Premier ministre est ce soir à Rouen. Sans la disparition de Jacques Chirac, je pense que la machine médiatique de communication de crise du gouvernement se serait mise en place au plus haut niveau de l'État, peut-être un peu plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, attention, nous sommes à Paris, nous ne sommes pas à Rouen. Les médias locaux font leur travail, qu'ils soient publics, privés, France 3, France Bleu, travaillent beaucoup, et je le sais parce que je les écoute, passent beaucoup de temps à essayer de faire dialoguer les experts et les citoyens qui sont réellement angoissés. Que dire d'autre que, finalement, dans ce genre de situation, le journalisme a peut-être encore quelque avenir à se mettre en situation pour faire en sorte que la confiance soit rétablie ou qu'elle ne disparaisse pas totalement entre les experts et les citoyens.
Ouais. Jean-Luc Halimi, à propos de Rouen et de l'incendie et de ses conséquences, au fond, les expertises sont mises en ligne, elles sont accessibles au public et pourtant, le doute, comme le rappelait si bien Patrick Boeuf d'Arvor, le doute persiste. Largement, parce qu'au fond, les images sont spectaculaires également.
Les images sont spectaculaires, et puis il y a effectivement toutes ces thèses de complotisme, ou ces tendances malheureuses au complotisme alimentées par les réseaux sociaux, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit, qui conforte tout ça. Il y a aussi tous les scandales, pour le moment, qui semblent fondés de médicaments, d'amiante, dont les effets à long terme ont été désastreux. Pour le moment, Dieu merci, il ne semble pas qu'il y ait de pertes physiques aujourd'hui, mais qui sait, mais pour compléter, qui sait ce qui peut arriver, ouais. Juste pour compléter tout ce que fait le gouvernement ou devrait faire. En tout cas, il y a aussi la justice. Qui s'y met, qui va apporter aussi, qui va faire son œuvre de transparence avec le temps de la justice, évidemment, puisque l'enquête préliminaire s'est transformée en enquête judiciaire et que le fondement s'est ouvert à mise en péril, mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Donc on aura des éléments. La société civile se met en branle également, puisque les associations environnementales se sont portées partie civile. Et enfin, le politique également, puisque une commission d'enquête parlementaire vient d'être demandée au président de l'Assemblée nationale, notamment par les partis de gauche et la France insoumise. Donc à partir de là, il faut espérer au moins qu'à terme, toute la transparence sera faite.
Laurent Guimier ?
C'est vrai que Patrick a raison, il décrit une situation où il serait bon que des contre-expertises viennent valider les thèses officielles, mais c'est vrai que le fonctionnement, la boîte à outils de la démocratie française ne s'y prête pas vraiment. On est en France, on est passé de l'opacité au procès. On va tout de suite à la plainte, on va tout de suite à la confrontation de la suspicion face à la thèse officielle. Il y a des pays où l'on arrive à obtenir un consensus, un compromis entre des associations et des...
Porte-partie civile seulement.
Oui, porte-partie civile. Mais est-on obligé de tout de suite avoir comme perspective le tribunal et le procès pour essayer d'établir une vérité? Notre démocratie et son fonctionnement à la base ne s'y prête pas aujourd'hui.
Mais en revanche, il est naturel qu'en ces temps de terrorisme, les gens puissent se poser la question de savoir si tout ceci a été déclenché à l'intérieur de l'usine ou hors usine.
Donc, mais la société elle-même a porté plainte pour...
Une plainte contre X,
Une plainte contre X.
Allez, vous restez à l'écoute, en tous les cas, de France Info, à la radio, à la TV. Nous vous tenons informés toute la soirée sur les derniers développements de la situation en Rouen avec cette visite en cours du Premier ministre Édouard Philippe. 20h50 sur France Info. Nous allons clore ces informés avec cet hommage à Jacques Chirac. Mais tout de suite, le rappel de l'info avec vous, Armel Balogog.
Plusieurs centaines de manifestants demandent la vérité à Rouen. Rouen, où les ministres se succèdent depuis l'incendie de l'usine Lubrizol. Ce soir, c'est le tour d'Édouard Philippe. Le Premier ministre s'est rendu sur les lieux. Il rassure, les odeurs sont dérangeantes, mais elles ne sont pas nocives. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Agriculture a rencontré les producteurs locaux. Les récoltes sont gelées. Il leur promet une indemnisation totale. L'inquiétude dans le 9e arrondissement à Paris, le quartier Trévise est bouclé en raison d'une fuite de gaz. Les pompiers sont sur place en janvier dernier. Une explosion a eu lieu dans ce secteur. Elle a fait 4 morts et 66 blessés. Un mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende pour Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux reconnu coupable de violation du secret professionnel. Il a transmis au député Thierry Solaire des éléments d'une enquête contre lui. Le cimetière du Montparnasse reste fermé jusqu'à demain matin. Jacques Chirac y repose à présent. Les hommages se sont multipliés toute la journée pour l'ancien président. Une minute de silence dans les écoles, les honneurs militaires aux Invalides et une messe en l'église Saint-Sulpice à Paris.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Mais qui était donc ce Jacques Chirac avec cette image quand même très cassante au départ de sa carrière politique? Curieusement, vous lui aviez posé la question vous-même, Patrick Poivre d'Arvor, dans ce document étonnant que nous avons retrouvé. Il date du 15 avril 1988. Écoutez bien.
À la télévision, par exemple, vous vous trouvez raide, c'est parce que vous étiez mal à l'aise face aux journalistes, c'est parce que vous étiez pudique, quelle était la raison?
Il est certain que j'ai eu un problème de ce point de vue. Et peut-être un peu par pudeur, c'est vrai, je n'aime pas beaucoup me montrer, m'exhiber. Je réserve cela à mes amis, à mes proches, et au contact que je peux avoir avec mes compatriotes en dehors de l'œil froid de la télévision ou en dehors du système politique.
Patrick Poivre d'Arvor, merveilleux document. Vous aviez réussi à lui faire dire des choses.
Oui, je ne m'en souvenais pas d'ailleurs.
Mais... ça me surprend de vous voir comme ça. Ça vous.
Mais en effet, il y avait une forme de pudeur qui était très forte puisque nous avons hélas en commun la perte d'une fille du même motif, l'anorexie. Elle avait tenté, Laurence, de se suicider plusieurs fois. Elle a sauté du 4e étage de l'endroit où elle était retenue. Elle repose aujourd'hui à côté de son père au cimetière du Montparnasse. Elle a été enterrée il y a 3 ans. Et en fait, il ne m'en a parlé que très furtivement, à chaque fois. Une fois pour me dire assez fortement, dites à vos amis, vos camarades de la presse que, contrairement à la rumeur qui circule aujourd'hui dans Paris, ma fille n'est pas morte. Mais c'est à peu près tout. Alors qu'avec Bernadette Chirac, en revanche, nous avons évidemment beaucoup parlé jusqu'à créer la Maison de Solène, qui porte le nom de ma fille et qui est une belle réussite aussi et qui l'a souhaité. Et de ce point de vue, ça a été quand même l'obsession de sa vie, le remords de sa vie. Il l'a dit plusieurs fois, même si il lui arrivait de faire 2 déjeuners, un avec sa fille, puis derrière le déjeuner officiel. Il n'empêche qu'il pensait que, ne la voyant pas assez, il ne pouvait pas suffisamment lui apporter. Or, elle l'adorait. Et évidemment, c'est toujours pour un père. D'abord, les cadets ne doivent pas partir avant les aînés. Et ça a été pour lui quelque chose de terrible tout au long de sa vie.
Christine Ockrent, après ce que nous a raconté, évoqué Patrick Poivre d'Arvor, c'est cet aspect-là de sa personnalité que les Français finalement ont toujours deviné chez Jacques Chirac. Une forme d'humanité.
Oui, et une tendresse cachée. J'ai souvenir d'avoir fait avec lui, après beaucoup de négociations, une émission qui s'appelait « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?» Et j'avais retrouvé des documents sur la jeunesse de ce Chirac partant en Amérique au volant d'une décapotable, tombant amoureux d'une Américaine qu'il pense épouser, puis son père s'y oppose, et puis Sciences Po, Mademoiselle Chaudron de Courcelles, l'Algérie. Et revivant sa jeunesse, ce Chirac-là, cette forme de tendresse, apparaissait. Et je crois que c'est ce qui nous a tous émus, me semble-t-il, pendant ces 4 jours, c'est de retrouver cette dimension-là du personnage.
Laurent Guimier, sur ce Chirac intime et presque secret, finalement, que les Français semblent apprécier.
Oui, on l'a découvert aussi sur le tard, par les drames, et aussi parce qu'il s'est un peu livré, mais très très peu. Moi, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer comme vous avez pu le faire. J'ai l'impression qu'aussi, il est emblématique d'une époque, je ne reviens pas sur cette question des réseaux sociaux, encore une fois, et de la communication, que l'on pouvait sans doute mieux maîtriser. Je pense que les jardins secrets étaient plus faciles à cultiver dans les années 60, 70, 80, qu'ils ne le sont aujourd'hui, et Chirac partira, est parti avec aussi beaucoup plus de secrets que d'autres présidents.
Et c'est pas inutile qu'il y ait
des gens. Et c'est pas forcément quelque chose dont on doit se lamenter.
Allez, pour clore ces informés consacrés à Jacques Chirac, cet ultime extrait, c'était la dernière allocution du président de la République, Jacques Chirac.
Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime.
Malheureusement, trop vite. Patrick Poivre d'Arvor, un dernier mot.
Non, c'est une dernière vertu de Jacques Chirac, me permet de retrouver Christine O'Krent à 20h, alors que nous l'avons fait en nous succédant ou en nous opposant sur des chaînes différentes.
La une, Jeanne Calimi.
Le en même temps.
La une du Parisien.
Monsieur Jacques Chirac.
Allez, merci Jeanne Calimi, merci Laurent Guimier, merci à tous les deux, Christine O'Krent et Patrick Poivre d'Arvor, d'avoir été les invités de ces informés un peu particuliers ce soir. Bonne soirée.